théologie pratique n'avait un rôle à jouer dans leurs relations d'affaires. Les affaires, c'est les affaires. La théologie, c'est pour le dimanche, à l'église. Hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et on pourrait probablement s'imaginer que s'il faisait partie de la même église, la communion fraternelle à l'église serait affectée, n'est-ce pas? Parce qu'il vivait dans le monde des affaires. On ne peut pas compartimentaliser nos vies. On fait souvent ça. On fait souvent ça, surtout les hommes. Les hommes sont experts là-dedans, compartimentalisés. Les femmes, c'est plus fluide entre les compartiments. Mais les hommes, ça, c'est les affaires. Ça, c'est la famille. Ça, c'est l'Église. Et ce qui se passe là, ça ne vient pas ici, ce n'est pas des vases communicants. C'est séparé. Mais ce n'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. C'est impossible. Pourquoi, à la base, ces deux amis n'arrivaient-ils pas à travailler ensemble? Ben, ce qu'on va regarder ce matin devrait pouvoir nous éclairer là-dessus. Donc, ce matin, on va voir trois points. La source de ton identité détermine ton comportement. Un. L'identité première d'un chrétien est celle d'un enfant bien-aimé de Dieu. Deux. Qu'est-ce qui signifie que de laisser l'amour diriger toute ma vie? Donc, lisez encore avec moi dans Éphésiens. On est dans Éphésiens depuis plusieurs semaines, voire des mois, et on chemine à travers les chapitres 4 et 5. On va reprendre au chapitre 4 d'Éphésiens, verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, nous venons devant toi encore ce matin, Père, avec joie, avec reconnaissance, avec révérence, toi le roi de l'univers, l'être le plus puissant, le plus intelligent, le plus fort, le plus beau, le plus saint, également le plus bienveillant et le plus aimant. Père, on te demande ce matin de tourner ta face sur nous, de nous accorder ta faveur. Fais briller sur nous ta face, Père. Illumine les yeux de notre cœur, éclaire notre intelligence par ton esprit, qu'on puisse te connaître davantage, Père. Oui, Saint-Esprit, Esprit de vie, de vérité, mon Dieu, souffle sur nous, chasse toute obscurité, purifie-nous de toute souillure de l'esprit et de la chair, révèle-nous la pensée intime du Père pour la gloire de Jésus. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Donc, on pourrait revenir à notre histoire de Matt et Rob, puis là, on les rencontre, puis on dit, regarde, Matt et Rob, la Bible dit ici, là, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, vous avez juste à mettre ça en application, là, puis ça va bien aller. C'est ça que ça dit, là. Allez-vous obéir ou non? Hein? Et c'est souvent ça qu'on fait, là. Quand il arrive le problème, là, on prend un verset comme ça, un verset par-ci, par-là, puis on l'applique, tiens, plasteur, sans aller à la racine du problème. Et savez-vous que une des critiques des prophètes de l'Ancien Testament disait que les prêtres, pendant la période où ce que le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, ils disaient que les prêtres, ils mettaient des plasteurs partout. Plasteurs, sang, et en dessous, c'était pourri. C'était des abcès qui coulaient. Et les prêtres du temps, ils mettaient des plasteurs. Malheureusement, j'ai déjà fait ça. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, on fait ça. On ne va pas en profondeur, on ne regarde pas les sources des problèmes. Et ce matin, c'est ce qu'on va essayer de faire par la grâce de Dieu. Premier point, la source à laquelle tu puises ton identité constitue la source de ton comportement. La source de ton identité détermine ton comportement. Et c'est ce qu'on voit ici dans le verset 1 du chapitre 5 d'Éphésiens. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Dans la version Louis II, c'est « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Mais c'est « Puisque vous êtes des enfants bien-aimés, suivez l'exemple, devenez des imitateurs de votre Père. » Donc, vous êtes des enfants bien-aimés, ça se rapporte à quoi, là? Ça parle de quoi, là? Hein? Non? Oui, mais... Qui es-tu? Ton identité. Puisque vous êtes enfant de Dieu, c'est ton identité, alors... Suivez l'exemple de votre Père. Et c'est un pattern qu'on voit souvent dans les Écritures. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Regardez ici, dans le même passage, dans le même chapitre, plus loin, Paul va dire, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. » C'était votre identité, enfant des ténèbres. Par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Nouvelle identité. Tu appartiens à la lumière. C'est ton identité. Et il dit, comportez-vous donc maintenant comme des enfants de lumière. T'es un enfant de lumière? Comporte-toi comme un enfant de lumière. C'est jamais le contraire. Mais nous, souvent, c'est le contraire. Si je me comporte comme un enfant de lumière, je vais devenir un enfant de lumière. Si je me comporte comme bien, ben peut-être que Dieu va m'accepter comme son enfant. Non. Tu deviens enfant de Dieu par la foi seule en Jésus-Christ, à la croix, où il est mort pour toi, pour tes péchés. Et tu dois avoir cette rencontre un à un avec lui pour dire, « Seigneur, moi je suis pécheur. Moi je mérite le jugement de Dieu. » Merci d'avoir pris mon jugement sur toi à la croix. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Et si tu le fais ça, sincèrement, la Bible dit que maintenant, Dieu efface tous tes péchés et t'adopte dans sa famille comme son enfant. Puisque tu es son enfant, si tu es son enfant, eh bien, comporte-toi comme son enfant. Regardez ici encore, 1 Thessaloniciens 5:6, « Car vous êtes tous enfants de lumière, tous ceux qui ont accepté Christ, comme on vient de dire, comme leur sauveur personnel. Vous êtes enfants de lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas. » Voyez-vous, il y a un lien. Puisque c'est vrai, donc, OK? C'est une suite logique. Ça, c'est vrai, donc... Ça devrait être bien. C'est quoi le « donc »? Ne dormons donc pas, comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. OK, un autre. Comme des enfants, maintenant c'est Pierre, 1 Pierre 1:14. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Vous êtes enfants, vous êtes obéissants à Père, bien, laissez-vous plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Autre exemple, 1 Pierre 2:2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Des enfants nouveau-nés, il faut naître de nouveau, Jésus dit, hein? À Nicodème. Nicodème, leader religieux, vient voir Jésus. Il n'a même pas le temps de poser sa question dans Jean 3. Et Jésus dit, Nicodème, tu es un homme de bien. Tu fais bien ta religion. Continue de même, mon fils. Tu vas bien aller. Tu vas arriver au ciel. Non, ce n'est pas ça qu'il dit, hein? Il dit, Nicodème, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Et Pierre, il dit ici, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment. Et c'est un des signes que quelqu'un est vraiment converti, que quelqu'un a vraiment reçu la vie en lui, hein? Souvent, c'est qu'il a soif de lire la parole, d'apprendre sur Dieu. On a entendu souvent des témoignages comme ça. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Savez-vous, j'ai lu, j'ai passé toute la nuit à lire l'Évangile, à lire la Bible. J'ai passé à travers la Bible. On entend souvent des choses comme ça. Voyez 1 Jean 3:1. Combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés quoi? Enfants de Dieu et nous le sommes. C'est quoi ton identité? Enfants de Dieu. Finalement, 1 Jean 3, plus loin, il dit, c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh! Oh! Les enfants du diable. Oh! Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, parce que celui qui n'aime pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Ça se voit par le comportement. Ce n'est pas le comportement qui te confie cette identité-là, mais le comportement se manifeste de choses contrastantes. Celui qui aime son frère, celui qui déteste son frère. Enfant du diable, mais voyons. Oui, Jésus a employé ce terme-là envers les pharisiens dans son temps. Il se targuait d'être des enfants d'Abraham. Il s'enorgueillissait. Jésus dit, vous n'êtes pas vraiment enfant d'Abraham. Mais si, il l'était physiquement. Mais Jésus dit non, parce qu'Abraham se réjouissait de voir mon jour arriver. Il le voyait de loin, il le saluait. Vous, là, vous me faites la guerre. Vous ressemblez à votre père. Nous n'avons pas d'autre père qu'Abraham. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ressemblez à votre père, le diable. La Bible est claire, les amis. Tu es soit enfant de Dieu ou enfant du diable. Maintenant, la source, on voit ici, le point, c'est que la source de ton identité détermine ton comportement. C'est ce qu'on vient de voir, là. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Premier point, d'accord? L'identité précède le comportement. Et il y a quelques années, on avait vu avec notre frère Étienne Brochu ce schéma-là ici. On commence avec Dieu. Dieu, qui il est, va déterminer ce qu'il fait. Et ce qu'il fait détermine ce que nous sommes. Et ce que nous sommes détermine ce qu'on fait. C'est ce qu'on vient de voir ici, là. Ton identité détermine ton comportement. Quand on dit ce que tu fais, c'est tes pensées, tes désirs, tes aspirations, tout ça. Tout ça. OK? Toute ta vie. Maintenant, si tu es coupé de Dieu, si tu crois que Dieu n'existe pas ou qu'il existe, mais tu n'as aucune relation avec lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les flèches sont perdues, les premières flèches sont perdues, ça vient couper ici entre ce qu'il fait, Dieu, et qui tu es. Et il y a une flèche qui est inversée entre ce que tu fais et qui tu es. Autrement dit, ton identité va dépendre de ce que tu fais, ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu espères, ce que tu veux. Tout ça, vers qui tu es attiré, tout ça va déterminer ton identité. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on est coupé de notre vraie identité en Dieu. Si on revient à l'exemple de Rob et Matt, hein, nos deux amis, deux chrétiens qui sont dans l'enfer, deux jeunes hommes, pleins de bonne volonté, pleins de belles aspirations, mais bloqués dans leur relation. Tous deux se disent enfants de Dieu. Tous deux se croient appartenir à Dieu. Mais en pratique, tous les deux basent leur identité sur autre chose que Dieu. Et c'est ce qui était la source première de leurs difficultés relationnelles. Et c'est là qu'on veut en venir. C'est que ton identité a une grande importance dans tes relations. Okay? Les relations dépendent en grande partie de ton identité. Donc, regardons les deux un petit peu plus en détail. C'est M. Paul Tripp dans son livre qui explique ça. Je viens juste l'amener devant vous. Rob cherchait son identité dans quoi? C'est lui qui voulait amener l'entreprise plus loin, qu'elle soit plus performante, qu'elle réussisse. Il base son identité sur quoi? Sur la réussite, sur la performance. Et c'est pour ça que là, ça ne va pas, là, parce que l'autre le bloque. L'autre le bloque. Et là, il n'est pas bien, là. Il n'est pas bien parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut faire pour être qui il veut être. Pour devenir qui il veut être. Un entrepreneur, hein, réussi. Prospère, peut-être. Accompli. Si l'entreprise réussissait, il se sentait bien et important. Mais si l'entreprise ne performait ou n'avançait pas, il se sentait mal en point et devenait sombre, critique des autres, n'arrivait même plus à trouver la joie et la paix dans le Seigneur. Il se dit enfant de Dieu. Mais est-ce qu'il recherche vraiment son identité en Dieu? De plus, cela pourrissait sa relation avec Matt. Voyez-vous le lien entre l'identité et la relation? Ça pourrissait sa relation avec son ami Matt, qu'il voyait comme un obstacle. Et Matt, lui, sur quoi il basait son identité? Lorsque Rob n'était pas d'accord avec lui, lorsque Rob ne l'écoutait pas, devenait sombre, frustré, à terre, marabout, critiqueux. Sur quoi basait-il son identité? Eh bien, se pourrait-il que Matt base son identité sur le respect et l'acceptation des autres? Pour lui, ce n'est pas tant la réussite, mais la relation. Ah, ben c'est bon ça, les relations. OK, oui, c'est bon. C'est bon les relations, mais ça dépend. Ça dépend quelle est ton attente envers la relation. Alors lui, ce qui est important pour lui, c'est que... on a un respect l'un vers l'autre, puis il y a de l'écoute l'un vers l'autre. C'est des bonnes choses. L'autre, que sa compagnie réussisse, c'est-tu mauvais en soi? Non. Mais chacun basait son identité sur des choses autres que sur être enfant de Dieu. Matt, sur le respect et l'acceptation. Dès que Matt soulevait un point, un détail, bien, l'autre... réagissait avec irritation et ça, il se sentait rejeté. Rob se dit, si j'arrive à faire en sorte que l'entreprise soit un succès, tout ira bien pour moi. Et ça, là, ce petit bout de phrase-là, là, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Parce que dans le fond, là, chacun de nous, on a une phrase de même dans notre tête, qu'on le sache ou non. Pour moi, dans la vie, tout ira bien si. Si. Alors là, chacun de vous, comme moi, on a une phrase dans notre tête et le bout de la phrase, là, on le remplit avec d'autres choses que notre identité en Dieu. Pour moi, la vie, tout ira bien pour moi dans la vie. Si il y a de la paix dans ma famille, ah, ben, écoute, Qui veut pas ça? Hein? C'est-tu mal en soi? Non. Mais si tout ira bien pour toi dans la vie, s'il y a de la paix dans ta famille, tu te trompes royalement. Et non seulement ça, mais ça va causer des conflits dans ta famille, dans tes relations. Mais oui, mais cherche la paix. Ah, oui, tu cherches la paix, mais tu vas voir que tu vas produire plutôt des conflits. Pour moi, dans la vie, tout ira bien si mes enfants, là, ils sont heureux. Hein? Qui n'a pas pensé ça? Qui n'a pas voulu ça? Est-ce que c'est bon de vouloir ça? Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est au bout de la phrase, pour moi, tout ira bien si. Si mes enfants réussissent dans la vie, tout ira bien pour moi. Ah, OK. Donc, ton identité est basée sur ce que tu désires, ce que tu veux voir se réaliser. Là, c'est coupé, voyez-vous, c'est coupé de Dieu, là. C'est coupé. Voyez-vous comme dans l'histoire de Matt et Rob que chacun, de son côté, recherchait son identité ou sa prospérité, son épanouissement, ailleurs que dans leur identité de Dieu, en Dieu. Et c'est lorsque toi et moi, nous recherchons cette identité non pas en Dieu, mais dans les autres personnes ou les circonstances de notre vie, que les relations deviennent truffées de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on est égocentrique. Voyez-vous là? On revient avec ça là. Ça ici, là, c'est la vie égocentrique. Et ça fait contraste avec la vie christocentrique. On a parlé beaucoup de ça dans les dernières semaines. Christocentrique, égocentrique. Sont exclusives, sont mutuellement exclusives. On ne peut pas les arrimer, c'est soit l'un ou soit l'autre. Incompatible, merci. Si tu es coupé de Dieu, de ta vraie identité provenant de lui, tu te retrouves dans un néant et tu cherches à te définir, tu cherches à t'agripper à quelque chose, hein, pour te définir. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. C'est la quête, c'est la quête identitaire. On est en plein là-dedans, les amis, dans notre société d'aujourd'hui. On est en plein là-dedans. Au Québec, au Canada, en 2024. J'ai assisté il y a quelques semaines sur une conférence sur le counseling biblique avec Mathieu Caron, et il nous a entretenu sur quelles sont les caractéristiques générales du postmodernisme. Bon, c'est des gros mots, là. Caractéristiques, qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise une société postmoderne? C'est quoi le postmodernisme? C'est la philosophie qui caractérise notre époque, OK? Qui, en gros, là, n'accepte pas qu'il y a de vérité universelle. Il n'y a pas de vérité universelle. C'est ce que tu perçois qui est vrai, OK? Ce que tu ressens, ce qui est vrai. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vérité universelle. En passant, c'en est une vérité universelle, là, et parce qu'il croit que ça, c'est la vérité. T'es sûr de ça? Ah oui, 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 je suis sûr de ça. Ah, ça veut dire que tu es sûr à 100% que ça, c'est vrai? Ah oui. Ben, ça veut dire que tu crois à une vérité universelle, pas juste à la bonne, mais tu crois à une vérité. Voyez-vous la contradiction, là? OK, mais l'être humain de notre époque croit ça. Ça, c'est l'époque postmoderne. On est dedans, là. Et quelles sont les caractéristiques de l'époque postmoderne? La valeur, voyez-vous, la valeur de chaque être humain tire son origine dans sa capacité de ressentir. Donc, il n'y a rien d'objectif. Il n'y a rien qui est vrai, absolument vrai, c'est ce que tu ressens qui est vrai, d'être entendu, d'être reconnu et d'être affirmé. On cherche notre identité là-dedans. L'accomplissement de sa vie est réalisé lorsqu'il réussit à exprimer ce qu'il ressent et être affirmé par les autres. Ressentir, c'est exister. Son identité se trouve dans ce qu'il ressent. C'est ce qui est enseigné là. Aujourd'hui, dans nos collèges, dans nos universités, même dans nos écoles, c'est peut-être pas explicitement dit comme ça, mais c'est ça. C'est ça l'époque dans laquelle nous vivons. Maintenant, c'est pour cette raison-là que dans le livre nos relations des bénédictions compliquées, Paul Tripp et son co-auteur parlent d'adoration et d'idolâtrie. Oui, mais c'est quoi le rapport, Brian? Adoration et idolâtrie, c'est quoi le rapport? OK, on recule d'un petit pas. La relation que Dieu s'attend à avoir avec ses créatures, avec ses enfants, avec toi, là, la relation qu'il s'attend à avoir avec toi, là, est-ce qu'on pourrait dire que ça se limite à une adoration extérieure, formelle? En autant que tu viennes au culte le dimanche, que tu donnes ta dîme, que tu fais quelque chose de bien, que tu essaies de ne pas trop être en travers de sa volonté sur la semaine. C'est ça la relation, c'est ça adorer Dieu? Non, c'est pas ça adorer Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il recherche et même qu'il exige une relation intime, profonde avec toi. Il veut ton cœur. Et c'est normal. Il veut avoir une relation cœur à cœur. Une relation où ce que tu dépends de lui, où ce que tu lui exprimes ce que tu vis, où ce que toutes tes aspirations et attentes sont tournées vers lui. Où ce que tu retrouves ton identité en lui. C'est très, très, très profond ce que Dieu désire. Dans l'Ancien Testament, Dieu se plaint plusieurs fois parce qu'il dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est quoi? Éloigné de moi. » Alors, voyez-vous que dans le dessin ici, le schéma, si on est coupé là, de ce que Dieu est et ce qu'il fait pour arriver à trouver notre identité, notre épanouissement, etc., notre valeur, tout ça, c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'au lieu de trouver ces choses-là où tu devrais les trouver, tu les retrouves ailleurs, comme le peuple d'Israël qui se détournait de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il adorait des idoles, okay? C'était des statuettes là, physiques, OK? Mais pourquoi ils adoraient ça? Pourquoi? Parce qu'ils aimaient mieux ça, non? Ils pensaient qu'en faisant ça, qu'est-ce que ça leur apportait? Oui, mais la paix, la sécurité, la prospérité, la fertilité, tout ça. Ils cherchaient tout ça ailleurs qu'en Dieu. Si tu cherches ta sécurité ailleurs qu'en Dieu, t'es tendre fin de faire quelque chose autre que Dieu, ton idole. Parce que Dieu est supposé de te donner ta sécurité. Tu es supposé de retrouver ta sécurité en Dieu. Tu es supposé de retrouver ton identité en Dieu. Et là, tu tournes le dos à Dieu et tu cherches ton identité ailleurs qu'en Dieu. Tu cherches ta sécurité ailleurs qu'en Dieu. Tu cherches ton épanouissement ailleurs qu'en Dieu. Et Dieu dit... C'est l'idolâtrie. Je recherche mon identité en Dieu, non. Ma valeur en tant qu'individu en Dieu, non. Alors, la chose qui me donne ces choses-là est devenue mon Dieu, est devenue mon idole. Ce n'est plus des petites statuettes, là. C'est ça qui fait que des fois, c'est difficile à comprendre là, quand on parle d'idole. Oubliez l'image des statuettes, là. On ne parle plus de statuettes, là. Succès dans l'entreprise. Rob, si j'ai du succès, si l'entreprise va bien, si elle performe, tout ira bien pour moi. C'est son idole. C'est son idole. Il adore ça. Et il se laisse définir par ça. Il retrouve sa sécurité en ça, son identité en ça. Regardez ce que Jacques dit dans Jacques 4. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes, des passions qui combattent sans cesse en vous? Jacques, il parle à des chrétiens, là. parle à des chrétiens. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Continue, regardez là. Vous convoitez beaucoup de choses. Vous désirez beaucoup, mais vos désirs restent insatisfaits. Qu'est-ce qui se produit quand nos désirs ne sont pas satisfaits, là? Quand l'autre nous bloque, là? Colère, hein? Colère. Jésus dit que si tu as la colère dans ton cœur contre ton frère, là, ça peut aller jusqu'à une haine et on devient meurtrier. Pourquoi? Parce que tu me bloques, là. Tu me bloques dans ce que je veux, dans ce que j'ai besoin. J'ai besoin de ça. On ne se dit pas ça dans notre tête aussi clairement que ça, mais dans notre cœur, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie, vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez, vous vous disputez. Vous voyez les relations brisées. Vous n'avez pas ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas à Dieu. Oh! C'est plus tourné vers Dieu. Dieu n'est pas, il ne fait pas partie du portrait, là. L'entreprise, c'est moi. C'est moi qui fais avancer l'entreprise. Vous ne demandez pas à Dieu. OK, je vais demander à Dieu maintenant. Dieu, fais en sorte que j'ai du succès dans mon entreprise. Amen! Oh là, OK, je continue, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Non, attention. Vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos désirs serve à votre propre plaisir, peuple à adultère. Wow! Combien d'églises enseignent? Prie Dieu, viens à l'église, donne l'argent et Dieu va faire prospérer ton entreprise. Oh! C'est pas tout à fait ça, c'est pas du tout ça, parce que Jacques le dit ici, si tu demandes pour des mauvais motifs, pour ton propre plaisir, pour nourrir toute cette image-là là, qu'on vient de voir, eh bien, tu demandes mal et tu ne l'aurais pas. Tu ne l'auras pas, la bénédiction de Dieu. Est-ce que Dieu veut nous bénir? Oui. Oui. Est-ce que Dieu veut que tu prospères? Oui. Oui. Mais, premièrement, il faut être connecté avec lui, prospérer avec lui, dans ta relation, dans ton identité avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je m'occupe du reste. Je m'occupe du reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses-là, Dieu, ça. Et tu ne croiras pas à ça. Tu ne croiras même pas à ça, comment Dieu peut te bénir. Mais ici, Jacques, il vient de dire qu'il y a un lien entre l'idolâtrie, ce que tu adores, okay, ce qui te définit, ce qui te donne ta sécurité, ton plaisir, tout ça. Il y a une relation entre ça là, et les conflits. Lorsque le schéma est brisé, qui est Dieu, ce qu'il fait, détermine qui je suis et ce que je fais. Lorsqu'elle est coupée là, entre les deux, là, eh bien, j'ai d'autres choses qui me définissent, qui me donnent ma sécurité, ma prospérité, ma valeur, mon identité. Là, qu'est-ce que ça fait? Ça produit des conflits. C'est ce que Jacques vient de dire. Pourquoi? Parce que tu as besoin de ces choses-là. Tu en as besoin pour être la personne que tu penses être ou devenir. Donc, si dans mes relations, moi, j'ai besoin du respect et tu ne me donnes pas de respect, là, ça va mal aller. Ça va mal aller. Je vais devenir frustré. Je vais devenir en colère parce que je n'ai pas ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de l'amour, de l'affection de mon conjoint, j'ai besoin de ça et je ne l'ai pas, ça va mal. Ça va très mal. Est-ce que c'est normal d'avoir le respect des autres? Oui. Est-ce que c'est normal d'avoir l'amour, l'affection des autres? Oui. Mais on ne parle pas de ça, là. On parle, tu as besoin de ça pour être qui tu es. Pourquoi? Parce que tu ne le te retrouves pas de l'autre côté avec Dieu. Ce n'est pas juste les inconvertis qui font ça, les enfants de Dieu. Jacques, il parlait aux enfants de Dieu. Combien de femmes, si elles seraient honnêtes, pourraient dire « Tout ce que je demandais, c'est que mon mari me rende heureuse. C'est-tu trop demandé qu'une femme soit heureuse dans le mariage? » Prime abord. Ben non, je sais pas trop, là. Mais quand on creuse un peu, là, on dit « Attends un peu, là, attends. Tu es en train de me dire que c'est à ton mari de te rendre heureuse. » Il me semble que j'ai vu quelque chose à l'église une fois, là. Brian, il nous a montré un dessin. Tu t'attends à ce que ton mari te rend heureuse comme femme. Oh! Et là, ce qui se passe, c'est qu'il ne te rend pas heureuse. Fait, qu'est-ce qui arrive? Conflit, petit conflit, gros conflit. Est-ce que c'est normal pour qu'une femme veuille être aimée, se sentir? Oui. Voyez-vous là, comment c'est subtil? Là? C'est subtil. C'est des choses normales, mais quand ça devient une attente, quand ça devient une exigence, quand ça devient identitaire encore plus, c'est là le problème. Et ça provoque inévitablement des conflits. Ou le mari qui dit « Si seulement ma femme arrêtait de chialer, de critiquer, moi, tout ce que je demande, c'est qu'elle me respecte et m'appuie un peu. C'est-tu trop demandé, ça? » Ah, ben là, ben non, c'est pas trop demandé, c'est bien normal. Hein? C'est bien normal. Là, on dit, on compatise avec toi, frère. On compatise. Oui, ben oui. On peut compatiser. Oui, on peut compatir parce que le gars, il est souffrant. Est-ce que c'est normal que la femme respecte son mari? Oui. Est-ce que la parole dit « Femmes, respectez vos maris » Oui. Est-ce que la Bible dit « Marie, faites en sorte que vos femmes vous respectent » Non. Exigez que votre femme vous respecte. Non. Attendez-vous à ce qu'elle vous respecte. Non. La consigne est donnée à la femme et c'est à elle d'obéir par respect, par amour pour le Seigneur. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie professionnelle que les gens ne me respectent pas. Hey, là, ça me frustre, ça. Ça me frustre, ça met dans tous mes états. Et même au début, je ne savais même pas pourquoi j'étais bouleversé. Mais avec le temps, avec le Seigneur, pourquoi ça ne va pas bien? Ah, OK, cette personne-là a manqué de respect vraiment envers moi. OK. Elle ne m'a pas respecté. Bon. Là, ça me met mal parce que j'étais en train de, à quelque part, déraper et chercher ma valeur, mon identité dans le respect des autres, ce que je recherche. La vie va bien aller pour moi si tout le monde me respecte. Ça ne va pas bien parce que telle personne ne me respecte pas. Je suis bouleversé. Mais là, la beauté de la chose, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas coupé ici. Tu es en relation avec Dieu. Donc, tu peux te tourner envers Dieu. « Seigneur, moi, je ne me serais pas respecté dans cette relation. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu me dire quelque chose? » Et souvent, le Seigneur va me dire, « Brian, as-tu vraiment besoin de son respect? Je pensais que oui, là, mais non. Finalement, non, Seigneur, j'ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut en toi. » Et ça, une petite lumière, hein? On poursuit. On a vu que la source de ton identité détermine ton comportement et que le problème, c'est qu'on trouve notre identité ailleurs qu'en Dieu. Maintenant, on va regarder un petit peu quelle est l'identité première d'un chrétien. Eh bien, le passage nous dit ici clairement que nous sommes des enfants de Dieu. Vrai? Des enfants bien-aimés de Dieu. Ah, OK. Parce que pour beaucoup d'entre nous, je pense que de savoir que je suis enfant de Dieu, c'est bien, mais ça n'a pas gros d'impact dans ma vie. Je demeure encore un peu dans le néant parce que j'ai déjà été enfant de parents sur terre et que ces parents-là m'ont blessé. Ils ont fait de leur mieux, mais je ne me suis pas senti aimé. De un ou les deux. Et j'ai déjà parlé là-dessus ici, mais c'est juste pour un petit rappel. Est-ce que, si on te demande, est-ce que tes parents t'aimaient? Oui, mes parents, ils m'aimaient. Ils travaillaient fort. Ma mère se levait à 2h du matin pour frotter le plancher de la cuisine. Elle faisait de la nourriture pour nous autres. Elle faisait le lavage. Elle faisait tout. Mon père, il m'aimait parce qu'il allait travailler. OK, parfait. Tes parents t'aimaient. Est-ce que tu t'es senti aimé? Je ne sais pas. Mes parents m'aimaient. C'est pas ça la question. Est-ce que tu te sentais aimé? Alors, vois-tu, de savoir que tu es enfant de Dieu, juste enfant de Dieu, peut-être que ça n'aura pas d'impact dans ta vie si tu ne sais pas vraiment dans ton cœur que tu es enfant bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. Que cette vérité-là descende dans ton cœur. C'est primordial, cette identité-là, d'enfant bien-aimé. Regardez le texte, Éphésiens 5:1. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Sais-tu quoi? Je t'encourage à faire cette prière-là à Dieu. Dieu, est-ce que je suis ton enfant bien-aimé? Ah, c'est ridicule, Brian, tu le sais, c'est marqué là. Non, c'est pas ça la question. C'est question relationnelle entre toi et ton papa. Entre toi et ton papa céleste. Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'affectionnes vraiment, Seigneur? Et laisse le Seigneur te répondre. Donne-lui pas la réponse tout de suite, toute cuite dans la bouche. Laisse-le te répondre. On sait que c'est vrai, mais peut-être que toi, tu as besoin de l'entendre directement de sa bouche. Le mot « bien-aimé » ici, c'est « agapetos », qui vient du mot « agapao », le verbe « aimer ». Et savez-vous quoi? Ce mot grec-là apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament, entre autres, dans l'application du terme que Dieu emploie pour Jésus. Voici mon fils bien-aimé. Même mot, agapetos. Wow! Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Et là, Paul est en train de dire que Dieu utilise le même terme pour toi et pour moi. Es-tu en mesure de l'accepter? Es-tu en mesure de le recevoir? Quelqu'un peut te donner de l'amour, mais si tu ne le reçois pas, ça tombe. Si je te donne une fleur et tu ne le prends pas, ça tombe à plat. Il faut que tu l'acceptes. J'accepte, Seigneur, d'être ton enfant bien-aimé. Dieu t'aime comme son propre fils. Je répète. Dieu t'aime comme son propre fils Jésus. Je vous avoue que j'ai de la difficulté à accepter ça. Par moments, oui, mais je pense que c'est un combat d'une vie, d'apprendre à accepter cet amour inconditionnel de Dieu, à apprendre à l'accueillir. Est-ce que Dieu veut que je l'accueille? Ben oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il te donne. Si tu le refuses, est-ce que tu l'honores? Non. De refuser un cadeau, c'est de ne pas honorer celui qui le donne. c'est de l'accepter qu'il y en a en Dieu. Ouais, mais je ne suis pas digne. Ce n'est pas une question de ta dignité. L'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas de toi, mais de lui. Quand tu as des enfants, des petits-enfants, là, surtout les petits-enfants, ton amour pour eux, là, est-ce que ça dépend de ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas? Non, ça dépend de toi. Moi, j'aime mes petits-enfants. Je les aime. Des fois, ils font des choses que je n'aime pas. Je leur dis. Je les reprends. Mais je les aime. Pas parce qu'ils méritent, mais à cause de moi, qui je suis. Dieu t'aime à cause de qui il est, pas de, à cause de qui tu es. Si tu es en Jésus-Christ, tu es aimé comme Jésus-Christ. Je vous mets au défi de dire le contraire par la parole de Dieu. C'est profond, là. C'est fort, mais c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. As-tu accueilli cette vérité dans ton cœur? Sinon, tu vas chercher ton identité ailleurs qu'en Dieu. Tu vas, même si tu es chrétienne ou chrétien, tu vas chercher ton identité ailleurs que dans Dieu. Et c'est ça le combat entre la vie christocentrique et la vie égocentrique. Le combat d'une vie. Parce qu'on retombe souvent dans nos vieux sillons, hein? De rechercher notre valeur, notre identité ailleurs qu'en Dieu. Où est-ce qu'on était rendu? Dans le même épître, Éphésiens, au chapitre 3, c'est une prière, je vous cogne sur la tête avec cette prière-là, je sais, ça fait des années, mais je reviens avec ça parce que c'est tellement important. Paul dit, ce que je demande, quand je prie pour vous, Paul prie pour les chrétiens à Éphèse. Seigneur, protège-les des méchants, fais qu'ils puissent bien aller, la santé, sécurité, prospérité, Seigneur, bénis-les, Amen. Non. Paul, il dit, ce que je demande, c'est que le Christ habite votre cœur par la foi, étant enraciné et solidement fondé dans l'amour. Wow! Là, c'est une prière spirituelle. Là, c'est une vraie prière spirituelle. Solidement enraciné et fondé, raciné comme un arbre, solidement fondé comme un édifice. Vous serez à même de comprendre avec tous les saints combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour. Comprendre, c'est ici. Comprendre. Je comprends. Je saisis davantage. Est-ce que j'ai besoin de saisir davantage à tous les jours combien Dieu m'aime? Oui, j'ai besoin de saisir dans ma tête. Mais Paul, il va plus loin que ça. Il dit, vous serez à même de connaître cet amour. Et le mot « connaître » ici veut dire de l'expérimenter, de le connaître par expérience. Et pourquoi on est certain de ça? C'est ce qui vient après. Qui surpasse tout ce qu'on peut connaître? Attends un peu, là, Paul, tu dis, on va être en mesure de connaître, mais ça surpasse toute connaissance. Oui, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est pas la connaissance ici de saisir intellectuellement, c'est de l'expérimenter. De le connaître par expérience. Est-ce que tu connais par expérience que Dieu t'aime? Est-ce que tu l'as expérimenté? Paul, sa prière, c'est aux deux niveaux, la tête et le cœur. Les deux. Le cœur va réagir à ce que la tête a saisi. Ça commence par la révélation de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Mais il faut que ça atteigne ton cœur. Dieu veut ton cœur, tes aspirations, tes désirs, tes souhaits, ta quête d'identité. Il veut ça. Il va le chercher en te convainquant qu'il t'aime, que tu es son enfant bien-aimé. Amen. Si les gens te posent la question, qui es-tu? Oh, t'arrêtes sur la rue. Vox Pop, qui es-tu? Ah ben moi, je viens de Montréal, je suis ici depuis 31 ans, je travaille, je suis médecin, père de famille, quoi, j'aime faire du vélo, ben je suis chrétien aussi. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir encore? J'ai 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Je me définis comment, là? Je me définis comment? Ce que je fais, ce que j'aime, ce à quoi j'aspire, d'où je viens physiquement, je suis en train de me définir comme ça. Pas vrai? Pas vrai? Si quelqu'un nous pose la question demain matin, qui es-tu? Est-ce que je serai en mesure, est-ce que tu serais en mesure de dire, je suis un enfant bien-aimé de Dieu?
Oui, monsieur.
Amen. Amen. Mais voyez-vous comment c'est tellement subtil qu'on adopte les façons de penser du monde. On adopte la vie égocentrique. Serais-tu en mesure de dire « Je suis un adorateur du Christ. C'est ce que je suis. » Ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Je suis un adorateur du Dieu vivant. Amen. Ça devrait refléter sur ma vie et dans mes relations. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie vraiment de laisser l'amour diriger toute ma vie? On est arrivé au troisième point. Éphésiens 5:1, puisque vous êtes enfants bien-aimés de Dieu, bien-aimés, suivez l'exemple. L'identité amène le comportement. Suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Ça parle de quoi, ça? Mes relations. S'il n'y a personne d'autre sur la terre, là, ben, OK, ça serait envers Dieu, d'accord. D'abord, que ta vie soit dirigée par l'amour envers Dieu. Mais tout le passage avant traite de nos relations dans l'Église. Il parle de l'Église. Laissez toute votre vie, que toute votre vie dans la version Semeur, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis gratté la tête en regardant ça. Bien, on comprend un petit peu, là, brûle pour point, là, OK, il faut que l'amour soit primordial, mais en pratique, c'est quoi ça? C'est quoi que ça veut dire, là, vraiment? Est-ce que je fais ça ou je ne le fais pas? Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Ah, OK, là, ça m'aide. Parce que là, j'ai un modèle, comme on a vu la semaine passée. Dieu ne me laisse pas dans le néant. Il dit, voici le modèle comme le Christ. Oh, OK. Version Louis II, c'est marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. OK, parfait, merci. Seigneur, tu me donnes l'exemple. Ah, l'exemple de Christ. Oh boy, je fais talos. Et on pourrait se poser la question en même temps, oui, mais c'est quoi l'amour? Comment le définir? C'est quoi votre définition de l'amour, là? Si quelqu'un vous arrive en plein milieu de la rue, vox pop encore, comment tu définis l'amour? Juste pour ça, là, on est curieux. On fait un sondage, là. Comment tu définis l'amour? Y a-t-il des volontaires? Qui veut se lancer? Hein?
Donner sa vie.
Donner sa vie, OK. Quelle autre définition qu'il pourrait avoir dans la société d'aujourd'hui? Bon, je vais vous poser ça de même, là. Qu'est-ce que les gens diraient, là, en général, là? Oui, Jacqueline? Faire aux autres ce qu'on aimerait, OK, ou pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Ça, c'est les gens, ils inversent souvent, là. Ils vont dire ça. Oui, Rémi?
Les gens vont commencer à dire « s'aimer soi-même en premier ».
Oh, oui. OK. « S'aimer soi-même en premier », OK. Oui, Jacqueline? Oui. Pour prendre soin des autres. Okay. L'amour, c'est prendre soin des autres. OK. Considérez les besoins des autres. Oui, j'entends. Oui, c'est comment tu définis l'amour ou comment la société définit l'amour? OK. OK. OK, l'amour vient de Dieu qui l'a implanté dans notre cœur, oui. Rémi? OK. OK. Parfait. Oui, OK. Kofi? OK. OK, avoir la considération, l'estime. Oui, il y avait madame, je m'excuse. OK, inconditionnel. Oui, Martial? Oui, dans la société, on va dire que ben, j'aime cette personne, j'aime passer du temps avec, je suis attiré envers elle, c'est ça l'amour, bon, on s'aime, on a du plaisir ensemble, c'est ça l'amour. Il y avait Enan? Enan? Considérer l'intérêt de l'autrui. Plus que la sienne? Au-dessus de la sienne. Wow, OK. Richard, dernière intervention. Oui, dis-nous ça, Richard.
L'amour excuse tout, l'amour
parle. Ah, ben là. Tu parles de ta femme, là. Tu parles de ta femme qui t'aime. OK. Ben, écoutez, il y a beaucoup de définitions d'amour, soit dans la société qui ne tient pas compte de Dieu, soit des gens qui tiennent compte de Dieu, ou soit des enfants de Dieu. Mais je me suis dit, dans le texte, c'est ça qu'il faut toujours faire. D'abord, c'est d'aller voir dans le texte. Ben, le texte nous dit, suivez l'exemple de votre Père, comme cela a été le cas pour le Christ, laissez votre vie dirigée par l'amour. Il nous a aimés. OK, Christ nous a aimés, et puis c'est lui le modèle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que le passage nous dit? Voilà ce qu'est l'amour. L'amour, est-ce que c'est simplement un ressenti? C'est un beau feeling? C'est des papillons? C'est... Ben, on sait que dans la parole, il y a différents mots. Puis oui, ça peut être le mot eros. Le mot eros en grec qui veut dire l'attraction physique sexuelle. OK? Bon. Mais qu'est-ce que le passage nous donne comme définition ici? L'amour... Oui. Qu'est-ce que Christ a fait? Il donne. L'amour donne. L'amour donne. Foncièrement. Oui, pardonne aussi. Mais merci. Mais foncièrement ici, là, le plus basique, là, c'est que l'amour donne. OK? L'amour donne. Et même l'amour, dans l'exemple du Christ, donne de façon sacrificielle. Ça coûte quelque chose à moi de donner quelque chose que l'autre a besoin, dont l'autre a besoin. L'amour, c'est cette action-là qui donne de façon sacrificielle pour le bien de l'autre.
C'est...
Oui, exactement. C'est ce qu'on voit dans le passage, n'est-ce pas? Alors, maintenant, Si je dis, par exemple, un beau dimanche matin, en me fouillant dans une poche, « Je t'aime, hein, arrête, viens ici, mon frère, je t'aime. » Puis je sors un 2 piastres, tiens. Est-ce que, quelle sera ta réaction? Oh, ton amour vaut pas cher, hein? Ton amour vaut pas cher. C'est comme, c'est bizarre, lui. Il est bizarre. Il est un peu pas normal. Il est pas normal. Pourquoi? Ça ne marche pas ensemble, là. Ça ne marche pas. Tu dis que tu m'aimes, tu me donnes quelque chose qui n'a presque pas de valeur. OK. Donc, le don, l'amour est proportionnel à la valeur du don. À la valeur du don. Pas vrai? Maintenant, si un mari arrive le soir après travail et dit... à sa femme, « Je t'aime, chérie. » Puis il s'en va tout de suite dans le salon, ouvre la télé, et si elle arrive pour essayer de jaser avec lui, il dit, « Pas tout de suite, je suis en train d'écouter mon émission. » Les paroles, « Je t'aime, chérie, là, qu'est-ce qu'elle va dire? » Ça ne vaut pas grand-chose. Parce que tu n'es pas prêt à sacrifier ton petit temps devant la télé pour prendre du temps avec moi et m'écouter. Donc, l'amour ne vaut pas cher. Ou encore, si ta fille dit « Je t'aime, papa », mais lorsque tu lui demandes de t'aider avec une tâche un après-midi, elle dit « Ah non, je ne peux pas, là, je suis en train de texter avec ma meilleure amie. » Donc, l'amour donne de façon sacrificielle, et c'est ce qu'on voit dans ce passage ici. Dans le cas du Seigneur Jésus, on ne parle pas d'argent nécessairement, on ne parle pas de temps de qualité ou d'écoute ou d'actes de service ou de paroles encourageantes ou de caresses. Il a tout fait ça. Il a tout fait ça, Jésus. Et c'est des bonnes façons de démontrer l'amour. Paroles encourageantes, écouter, des caresses, des cadeaux, de toutes sortes de choses comme ça, c'est pas mauvais. Et ça peut être de l'amour si vraiment je le donne de façon sacrificielle pour le bien de l'autre. Donc, voyez-vous là, ici, le lien entre le schéma qu'on a vu tout à l'heure, qui est Dieu, ce qu'il a fait, va déterminer qui tu es et ce que tu fais. Et si ta source d'identité... de sécurité, de valeur, de prospérité, on va dire, d'épanouissement, tout ça te vient de cette direction-là. Qu'est-ce que ça peut produire? Ça peut produire des relations saines. Pourquoi? Parce que tu ne recherches pas dans la relation tes désirs, tes buts, ton identité, ta sécurité, tes valeurs. Tu n'as plus d'exigence envers les gens dans ton entourage. C'est bien si quelqu'un te donne quelque chose, c'est un bonus. C'est un bonus. Et oui, on a besoin les uns des autres, mais sais-tu quoi? Ce que je reçois de toi, là, ben, je vais reconnaître que ça me vient de Dieu. Et je vais dire merci, Seigneur. Parce que la parole dit, on a besoin les uns des autres, là. Dans nos relations, on a besoin les uns des autres. Mais ce que je reçois de toi va me provenir, encore une fois, de Dieu. Donc, tout me vient de Dieu. Et quand tout me vient de Dieu, ça permet des relations saines. Si on revient à l'exemple de Matt et de Rob au début de l'histoire, au début du message. Rob, qui voulait que l'entreprise performe, il veut amener l'entreprise plus loin, que ça monte, ça performe. Comme on a dit, c'est pas mal en soi, mais il cherche son identité là-dedans. Si maintenant, il se tourne vers Dieu et dit, « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait de ça mon idole, ma source de sécurité, ma source d'épanouissement, ma source de mon identité, et ça a même produit des chicanes avec mon frère. Je te demande pardon. Je veux rechercher tout ça en toi, Seigneur. Et fais ce que tu veux avec ma compagnie. C'est complètement différent. Et là, si Matt, de son côté, qui se sentait rejeté, se tourne vers Dieu et dit, « Seigneur, je te demande pardon parce que je cherchais ma sécurité, ma prospérité, mon identité dans la relation avec Rob. J'avais pas son respect, puis c'est devenu comme une idole pour moi d'aller chercher l'acceptation et le respect, tandis que c'est à toi, Seigneur, que je dois me tourner pour ces choses-là. Pardonne-moi. Je renonce à chercher ces choses-là dans cette relation-là. Je veux les avoir en toi, Seigneur. Et fais ce que tu veux avec ma relation avec mon frère. » Lundi matin, quand ces deux-là vont se rencontrer, quelle différence ça va faire dans leur relation? Toute la différence. Toute la différence. Parce que d'un côté, il va avoir lâché prise. Il peut avoir le désir que ça fonctionne, bien oui, c'est normal, mais il n'a pas besoin de ça. Il va être plus à l'écoute. Il va chercher à honorer son partenaire, à l'écouter, à lui donner attention, à lui donner par amour ce qu'il a besoin. Et l'autre, de son côté, n'a plus besoin du respect, de l'acceptation de l'autre. C'est le fun, si, là, mais il n'a plus besoin. Alors, il va pouvoir donner ses suggestions sans attente, sans exiger et sans réagir s'il refuse ses suggestions. Il va être libre de tout ça. Il va dire, « Seigneur, regarde, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai dit, maintenant le reste appartient. » Pas vrai? Et qu'est-ce que ça va produire? Des relations saines. Les deux vont grandir dans leur amour l'un pour l'autre. Les deux vont grandir dans leur respect pour l'un l'autre. Les deux vont s'aider l'un l'autre dans leur relation avec le Seigneur. Amen. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Wow! Ce matin, devant cet enseignement-là, je dois avouer qu'il y a des parties de ma vie qui sont dirigées par l'amour, d'autres parties par moment et d'autres parties pas du tout. Que toute votre vie, si seulement il n'y avait pas ce petit mot-là, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. C'est pas « Ah, ben là, je vis ma vie, puis j'essaie de mettre l'amour en application. » Non. C'est dirigé par l'amour. Poussé par l'amour. Encadré par l'amour. Défini par l'amour. Toute ta vie. Wow! Ouf! Comme cela a été le cas pour le Christ, il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Qu'en penses-tu? Ouais. Oui. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est bon, ma sœur. Exactement. Je vais répéter, c'est que ça nous arrive parfois, je dirais même souvent, que notre vie n'est pas dirigée par l'amour, mais ce n'est pas une fin en soi. On se tourne vers le Seigneur, on demande pardon, à notre frère, notre sœur, notre collègue de travail, et on repart à zéro. Amen. Penses-tu que ce concept-là, c'est le bon concept pour avoir des relations saines? Est-ce que c'est comme ça que tu mènes ta vie? Quel modèle Est-ce que tu veux suivre à présent? Est-ce qu'on veut être une église remplie de gens égocentriques ou christocentriques? Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est tellement puissante, qui est une lumière sur nos pas, une lampe à nos pieds. Merci Seigneur parce que tu nous montres souvent que nos pieds se sont égarés loin du sentier. Tu mets en évidence, Seigneur, des choses cachées dans nos cœurs. Seigneur, je te prie que tu nous fortifies par ton esprit, que le Christ habite vraiment dans nos cœurs, qu'il fasse sa demeure dans nos cœurs, dans le cœur de mes frères et sœurs, qu'on puisse saisir davantage son amour, ton amour, dans toutes ses dimensions, Seigneur, qu'on puisse saisir davantage et l'expérimenter. Pardon, Seigneur, de chercher notre identité, notre sécurité, notre prospérité ailleurs qu'en toi. Et ça produit des dégâts dans nos relations, Seigneur. Mais merci parce que, comme notre sœur disait, on retrouve auprès de toi pardon et restauration. Sois loué, sois béni au siècle des siècles. Amen. On avait un dernier chant, William?